Oui, je peux témoigner que chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Je vous remercie beaucoup d'avoir prié pour moi pendant mon accident. Merci pour la louange, c'était merveilleux de trouver des jeunes gens qui aiment le Seigneur. Et je trouve que c'est particulièrement bien de suivre le Seigneur quand on est jeune. On s'épargne pas mal de bêtises et je trouve que c'est merveilleux d'avoir Jésus dans votre cœur. Soyez bénis tous. Je trouve que c'est fantastique. Frédéric, c'est le moment. Merci beaucoup. Nous avons des enfants ici qui partent. Oui, un petit. Ouais. Seigneur, tu veux les bénir et les encourager et semer ta graine d'amour dans ce petit cœur. Merci beaucoup. Et merci aussi pour Frédéric. Tu peux lui donner les mots que tu veux nous adresser ce matin. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci.
Cette image, c'est celle que Yann a mise sur le site internet et qui donne, je dirais, le motto, la direction que Yann avait envie de porter ces temps pour notre paroisse. C'est ce qu'il a à cœur. Ose voir plus loin, ose croire. Il y a 15 jours, il nous avait parlé sur la base d'Hébreux 11, sur cette idée-là pour nous encourager à la foi, nous encourager à oser, nous encourager à aller de l'avant. La semaine dernière, c'était Pâques, et il nous a parlé sur Jean 21, sur une chose qui est liée à ça, sur la source. C'était sur Jean 21, et la question c'est, est-ce que tu m'aimes? Et ensuite, il nous a bien parlé, qu'est-ce que tu désires? C'est des messages qui m'ont frappé. Et j'ai continué de réfléchir là-dessus, et j'ai eu envie de poursuivre ce sujet, alors sur la base d'un autre passage, c'est dans le chapitre 15 des Romains. Qu'est-ce que tu désires? Quels sont nos désirs? Quelles sont les choses qui nous motivent finalement? Et puis, ces désirs, comment ils peuvent être alignés avec les désirs de Dieu? Tiens, il a changé de couleur.
Oui, c'est bon qui
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'espérance, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on n'a pas à un moment donné, mais qui est devant nous. Et Dieu est un Dieu d'espérance. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas un Dieu statique, même si lui, foncièrement, ne change pas. Ce n'est pas un Dieu statique. Il a créé l'univers, il nous a créés, il a créé les anges, il a créé toutes choses dans un sens de dynamique, dans un sens de mouvement, dans un sens de progrès, dans un sens de changement. Les choses sont inachevées, mais il y a toujours du nouveau devant nous. Il y a toujours du nouveau devant nous. Dans notre état actuel, et même dans le monde futur, il restera toujours du nouveau à découvrir. Parce que Dieu est dynamique, Dieu est un Dieu d'espérance. L'espérance, elle est là, elle sera toujours devant nous. C'est dans la nature de Dieu même d'avoir des objectifs, d'avoir des plans. Il est le Dieu de l'espérance et il veut que nous débordions d'espérance. Ça veut dire qu'il veut que cette espérance qu'il a en lui, elle soit en nous, et qu'on déborde d'espérance, qu'on reçoive une puissance pour agir, pour oser croire, pour oser voir plus loin. Ça fait partie de l'appel de Dieu, ça fait partie de ce qui construit une espérance, pour qu'on déborde d'espérance. Alors ma question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelle est notre espérance? Quels sont nos motifs? Quelles sont les choses qui nous poussent en avant? Alors j'ai essayé de réfléchir simplement, comme ça, j'irais dire, pas bibliquement, simplement humainement. Alors il me semble que la première chose, le désir qu'on a toujours, qui nous pousse à agir finalement, c'est le désir que tout aille bien pour nous, que tout aille bien pour ceux qu'on aime. Ça peut se résumer en une chose, c'est la recherche du bonheur. Ce qui nous motive finalement, au fond, c'est la recherche du bonheur. Et ça se décline de diverses manières, cette recherche du bonheur. Par exemple, je vous dis, il y a cette idée de dynamique, de progrès qui est dans le cœur de Dieu, mais il l'a mis en nous. Donc on désire progresser, on désire se développer, on désire créer du nouveau, vivre des choses qui sont différentes. On a envie d'avancer. C'est un désir qui est mis dans notre cœur. On a le désir aussi, je dirais, de donner du sens à notre vie. Le désir de laisser une trace, le désir d'être utile, par exemple. Ça me frappe toujours quand on va voir Roland à l'EMS, de se rendre compte tous ces gens qui sont là, mais qui se sentent inutiles. Mais c'est dur de se sentir comme ça, inutile. On a besoin d'avoir du sens à sa vie, que les choses qu'on vit tous les jours, elles aient une signification. Un autre désir qui est dans notre cœur, c'est le désir de remporter des victoires, c'est le désir d'aller plus loin, je dirais même, c'est le désir de gagner, de dépasser les autres, c'est le désir de compétition. Il suffit de regarder les enfants pour se rendre compte à quel point c'est vrai. Ils sont toujours en compétition les uns avec les autres. Alors nous, on le cache un peu plus, mais ça reste profondément dans l'être humain. On a aussi un désir, je pense, c'est d'entrer dans l'appel de Dieu. Ça, c'est un désir que, je pense, chaque croyant partage. Il y a aussi un désir, c'est le désir de changer, de corriger, d'améliorer, de combattre tout ce qui est mal. Autour de nous, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Eh bien, on est motivé pour changer ces choses. On est motivé par l'indignation, on peut être motivé par la compassion, on peut être motivé par toutes sortes de passions, mais il y a des choses qui doivent être changées. Et ça, c'est une motivation qui est souvent puissante. Il y a une autre motivation qui est dans le sens négatif et qui est pourtant très importante. On est motivé par la crainte. Il y a des tas de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas simplement par crainte. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et puis, la dernière chose auquel j'ai pensé, qui est pourtant assez primaire, c'est on a désir profondément l'approbation des autres, l'approbation de soi-même, l'approbation de Dieu. On a envie de faire plaisir, on a envie d'être accueilli, accepté, admiré. C'est quelque chose qui est très au fond de nous-mêmes, mais qui motive beaucoup de nos décisions finalement. Beaucoup des choses, c'est des choix que l'on fait. Alors, j'ai réfléchi à ces choses. Je vous l'ai dit, pas bibliquement, simplement humainement. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces choses, tous ces motifs qui nous font avancer finalement, c'est des motivations humaines. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on partage ces motivations-là. Peut-être pas celles de, qu'est-ce que j'avais mentionné, d'entrer dans l'appel de Dieu, mais la plupart des autres choses, ce n'est pas spécifique à la foi. Ce n'est pas spécifique aux croyants, c'est les moteurs humains qui font avancer. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que la foi change dans tout cela? Toutes ces choses, je trouve, il y a une chose qui ressort aussi, c'est notre ambiguïté. Il y a un mélange de choses qui sont, je dirais, un peu orientées vers l'extérieur et de choses qui sont orienté vers notre intérieur. Il y a des désirs qui sont un peu dans toutes sortes de directions. Je pense que chacun de vous est conscient, chacun de nous est conscient de ça. On est partagé, on est divisé. Dans Jacques, au chapitre 4, la parole dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ?» n'est-ce pas, de vos passions qui luttent dans vos membres. Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. On a des conflits intérieurs. Il y a des choses, ouais, ces choses contradictoires, ambiguës, elles combattent en nous. On se rend tous compte que la vie n'est pas très facile et que la vie chrétienne n'est pas très facile à cause de ces combats intérieurs. Et toutes ces choses, toutes ces motivations que je viens de mentionner, finalement, elles sont des choses qui rendent la vie difficile. Vouloir remporter des victoires, vouloir changer, corriger les choses, vouloir aider les autres et servir, c'est fatigant. C'est pas facile. C'est quelque chose qui engendre des stress. C'est quelque chose qui engendre aussi des conflits intérieurs, des conflits les uns avec les autres, parce que ces désirs des uns et des autres entrent souvent en collision. Ça rend la vie difficile. Et souvent, en poursuivant ces objectifs-là, ben, il y a des échecs et ça devient difficile, ça devient lourd. On a beaucoup d'insatisfaction. On cherche quelque chose, on cherche du bonheur. Et dans ces choses-là, on rencontre plutôt des déceptions. C'est très facile d'être déçu des autres et c'est très facile d'être déçu de soi-même. Tous ces désirs, ils n'arrivent pas à leur but. Et il y a une autre dimension qui fait que tous ces désirs humains, ils ont un vrai problème. Je ne vais pas vous les relire, mais si vous écoutez, vous réfléchissez à ça, c'est que toutes ces choses, tous ces désirs, ils sont centrés sur moi, sur le moi, mon service, mes objectifs, mes proches, ceux que j'aime, moi, le désir de progresser, de donner du sens à ma vie. Vous voyez, c'est très centré sur nous-mêmes. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est pas Dieu, lui, n'est pas centré sur lui-même, peut-on dire. Il aime, il sort. Et tant que nos motivations sont centrées sur nous-mêmes, on a un vrai problème. Alors, qu'est-ce que Dieu fait face à ça? On a toutes sortes de problèmes, de difficultés, de motivations pour avancer qui sont ambiguës. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, Romains 15, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. Pour donner de l'espérance, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il va nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour déborder d'espérance, pour aller de l'avant, pour pouvoir oser, eh bien, une chose est nécessaire, prioritaire, et c'est ce que Dieu fait, c'est qu'on soit débordant de joie. Ça commence par là. Et voyez la différence fondamentale. Tout ce que je disais tout à l'heure, tous ces motifs qu'on a, on cherche le bonheur. La finalité, finalement, de beaucoup de nos actions, c'est la joie, c'est le bonheur. Et ce que dit la parole, et ce n'est pas le seul passage où ça ressort, c'est dans l'autre sens. C'est parce qu'il y a le bonheur, parce qu'il y a la joie, qu'il est possible d'aller de l'avant, qu'il est possible d'avancer. Pour chasser le bonheur, on n'y arrivera jamais. On doit le recevoir et partir du bonheur. Et cette joie, c'est le cœur de la volonté de Dieu pour nous. Il nous a créés pour qu'on reçoive et qu'on soit avec cette joie. Joie, on va un tout petit peu mieux dire ce que c'est après, mais ce n'est pas simplement être joyeux. Mais le cœur de sa volonté, c'est qu'on ait chacun de nous, au fond de nous-mêmes, profondément, de la joie. La semaine dernière, Yann, il avait commencé son passage sur cette histoire. Est-ce que tu m'aimes? Aimer. Ici, c'est la joie. Mais quel est le rapport entre aimer et la joie? Ben, finalement, moi, ce que je vous propose, c'est que la joie, c'est l'émotion liée à l'amour satisfait. Pour être heureux, pour être joyeux, eh bien, je dois être aimé. L'amour satisfait. Et quand la parole nous parle de joie, elle parle de façon très forte, eh bien, c'est quelque chose qui a à faire avec une profonde satisfaction. une profonde être rempli. Et on l'a chanté plusieurs fois ce matin, ça m'a touché aussi. À quel point Dieu, notre Dieu, est source de joie. À quel point connaître Dieu, réaliser qui il est, contempler qui il est, savoir, voir, recevoir, m'émerveiller devant Dieu, est la chose qui réellement satisfait profondément. Rencontrer Dieu, connaître Dieu, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. C'est quelque chose qui est tellement au-dessus de toutes les autres joies qu'on a de la peine à trouver des mots pour le dire. Alors on essaie de le chanter en tâtonnant un peu. Et je crois qu'on n'a pas tellement d'autres moyens. Louer Dieu, c'est essayer, tenter, tâtonner un peu pour réaliser à quel point ce Dieu est merveilleux. Il est merveilux dans ce qu'il a fait, dans sa perfection. Il est merveilleux quand il nous rencontre, quand il nous parle. Il est merveilleux quand il nous touche. Il est merveilleux quand tout à coup on réalise qu'il nous aime. Et que ce Dieu-là, je compte pour lui. Cette chose-là, cette joie-là, c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est quelque chose que... Aimer Dieu. Suzy a une bonne définition de l'amour. Suzy, elle dit, aimer, ça veut dire connaître Dieu. Pour aimer Dieu, c'est connaître Dieu et se laisser connaître par lui. Aimer quelqu'un, c'est connaître cette personne et se laisser aimer par cette personne. Il y a ce dialogue. Et je pense que c'est très juste. Et la joie qu'on a de connaître Dieu, c'est de le connaître, quel il est, et de se laisser connaître, de recevoir d'être devant lui, tout simplement. Il nous a choisis, il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous serre dans ses bras, on l'a chanté, c'est des expressions. Mais c'est la seule joie vraiment profonde. Toutes les autres joies sont différentes. Et ce qui m'a frappé dans ce passage et dans beaucoup d'autres passages, c'est que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix. Joie et paix, ça va ensemble. Pourquoi ? C'est quoi la paix ? Ben, c'est être satisfait. La paix, c'est ne pas avoir de tension. Vous savez ce que c'est la paix ? C'est une chose qu'on aimerait tellement avoir souvent. Mais cette paix-là, elle est possible. Parce que la joie de connaître Dieu, la joie d'avoir cette relation avec lui, elle est tellement profonde, elle est tellement réelle, tellement satisfaisante, que tout le reste devient secondaire. Si je me sais aimer de Dieu, si je sais que j'aime Dieu, il y a des tas de choses qui deviennent bonnes, mais secondaires. Et ça me permet... Oui, ça me permet d'accepter des difficultés, d'accepter des échecs, d'accepter des fois même du rejet, des choses comme ça, parce que finalement, l'essentiel, le centre, je l'ai reçu. La paix. Puis une autre dimension de la paix, c'est qu'on connaît un Dieu tellement grand, tellement admirable, tellement puissant, sage et bon, on peut avoir confiance en lui. Est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter quand j'ai un tel Dieu? M'inquiéter quand j'ai un tel Dieu, mais ça nécessite de trouver ma joie en lui, d'avoir confiance qu'il est pour moi, de réaliser le lien que j'ai avec lui. Mais je n'ai pas de souci à me faire. Alors c'est facile à dire. Vous savez, Suzy a une menace sur sa santé pendant 2 mois, c'était quand même inquiétant. Et on se rend compte que c'est un combat. Mais un combat qui permet, comment dire, le chemin, ça a été... Suzy avait des points d'interrogation quant à sa santé, et le médecin avait été clair sur les différentes possibilités. Alors, il y avait une possibilité, c'est rien, super. Et puis des possibilités de plus en plus menaçantes. Comment on gère ça pour être confiant? Ben, moi, c'était une expérience, je crois, marquante pour moi, c'est d'oser confronter ces réalités, toutes ces réalités. Pas seulement espérer que ça se passe bien, ou même supplier Dieu que ce soit pas grave, ou bien que... Non, confronter ces réalités, accepter, voilà, et réaliser à quel point, franchement, Dieu est fidèle, à quel point on peut, dans les choses qui sont difficiles, lui dire, je te le laisse. Et on peut parce qu'on le connaît, enfin je peux parce que je... Pour parler en moi, hein, je peux parce que je connais, parce que je sais à quel point il est bon et à quel point cette joie qu'il a mis en moi peut être une assurance au travers de choses qui peuvent être très difficiles. Ça n'empêche pas que quand on a appris que Suzy finalement n'avait rien, ben j'étais très content. C'est...
Moi aussi.
Oui, hein. Mais le but ou le message qu'on avait, l'idée de Yann, c'était oser, avancer, faire, être en paix, être content, être à l'aise avec tout ce qui se passe, n'avoir pas d'exigence. Est-ce que c'est dynamique pour changer, pour avancer? Ou bien est-ce que je reste béat dans mon confort, béat dans mon amour de Dieu et le plaisir que j'ai de connaître ce grand Dieu? On peut se poser la question. Ben oui. Pourquoi? Mais parce que Dieu est dynamique. Parce que Dieu veut avancer. Parce que Dieu est actif. Parce que Dieu conduit les choses. Parce que Dieu met sur mon cœur d'autres choses. Il n'y a pas besoin de craindre que d'avoir la paix de Dieu va nous arrêter. Au contraire, ça ouvre des portes. Et ça ouvre des portes à quoi? Ça ouvre des portes, je dirais, à pouvoir agir, non pas à la poursuite du bonheur, non pas agir à la poursuite sans cesse de quelque chose, mais de pouvoir agir, je dirais, dans l'obéissance, je dirais. Parce que ce Dieu-là qui veut que j'avance, ben, il va me dire, il va me guider, il va m'aider, il va me montrer pour que je puisse avancer. Tant que je suis dans mes luttes pour suivre et pour trouver des objectifs, finalement, j'ai de la peine à entendre Dieu. Mais si je suis arrêté, si je suis calme devant lui, si j'ai cette joie profonde de le connaître, ben on peut faire confiance à une chose, c'est qu'il va nous parler, et il va nous faire avancer, et il va ouvrir des portes. Et des portes qui seront probablement différentes de celles qu'on aurait choisies autrement, qui n'auront peut-être pas les résultats qu'on attendrait, mais qui sont son chemin à lui. Et son chemin à lui, il est souvent très différent de nos idées à nous. Et ça, je dirais, seule la compréhension, la réception de cette paix de Dieu, de cette joie de Dieu, je crois, nous donne l'ouverture spirituelle pour voir ce que Dieu veut vraiment. C'est pas tellement... Oser croire, oui, c'est oser croire. Mais c'est quoi oser croire? Oser croire, c'est oser faire confiance. Croire, c'est faire confiance. Oser faire confiance, ça veut dire, je vous le disais, plutôt oser obéir plutôt que oser prendre les choses en main. Et c'est pas facile. C'est pas facile de ne pas prendre les choses en main. Et il faut drôlement du courage pour oser simplement obéir. Ce passage se termine en disant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une question, si tous les efforts que je fais finalement ne construisent pas mon bonheur, mais qui doit être un prérequis, quelque chose qui vient d'abord, ben, comment recevoir cette joie? Par la puissance du Saint-Esprit. Cette joie de Dieu, elle est un miracle. Cette joie de Dieu, elle est mise dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut rien y faire. Ça vient du Saint-Esprit. C'est son choix. Et lui, il la met dans nos cœurs. c'est surnaturel. Et c'est vrai pour chaque personne qui a répondu à l'appel de Dieu. Chaque croyant, le Saint-Esprit est là et travaille et crée en lui cette joie de connaître Dieu. C'est vrai de chacun. Des fois, il y a des théories qui disent que quand, pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est par exemple parler en langue, ou la plénitude du Saint-Esprit, ça correspond à ceci, ou correspond à cela. Moi, je dirais, la plénitude du Saint-Esprit correspond à une chose, avoir de la joie en Dieu. C'est ce que Dieu, le Saint-Esprit, fait. Il met en nous la joie. L'amour de Dieu est versé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et la joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émotion liée à cet amour reçu. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être un croyant sans connaître quelque chose de cette joie de Dieu. C'est tout simplement pas possible. Alors cette joie, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours présente, elle n'est pas toujours éclatante, on n'est pas toujours dans une louange extatique, certainement pas. On est fluctuant, on est dans un monde difficile, il y a des... Oui, des fois cette joie, elle est... Je vous parlais de cette période qu'on vient de vivre avec Suzy, la joie, elle était plutôt un peu en retrait, mais elle est là, il y a la présence. Et il y a une chose qui porte aussi, c'est le souvenir des moments où on a vécu davantage cette joie, le souvenir de, tirer du passé. Et ça me conduit, une toute petite parenthèse, moi je me suis rendu compte à quel point on vit dans le présent et c'est un peu une erreur. Vous savez qu'on va voir, j'en ai parlé tout à l'heure, on va voir cette Rolande, cette vieille dame qui a Alzheimer, qui ne peut plus nous parler. On va la voir, et pour moi c'est possible de la regarder alors qu'elle ne peut plus communiquer, parce que je me rappelle de qui elle était. Elle n'est pas Rolande d'aujourd'hui, elle est Rolande de toute sa vie, de toutes les relations qu'on a eues. Et il faut que je garde ça en tête quand elle est là, et ça aide drôlement, parce que c'est une réalité. Ce qu'on a vécu avec Dieu, ce n'est pas toujours éclatant, mais ça reste là. Ça reste des choses sur lesquelles on peut compter et qui nous tiennent. Quand il n'y a plus d'émotions, eh bien on peut se souvenir des émotions qu'on a eues. Elles ont beaucoup de valeur. Et le Saint-Esprit, non seulement il met cette joie, mais il l'entretient. Il la rend vivante. Tu passerais au passage suivant, s'il te plaît. Dieu est le Dieu de la persévérance et du réconfort. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce verset, même s'il est intéressant dans ce contexte-là. Mais il y a deux choses absolument fondamentales dans l'action de Dieu, dans cette puissance du Saint-Esprit qui crée cette joie. Il faut deux choses. Il est de Dieu, c'est sa nature même. Vous voyez, c'est pas, il ne parle pas simplement de persévérance et de réconfort, mais il est Dieu de la persévérance, le Dieu du réconfort. La persévérance, mais parce que on est dans un monde franchement mauvais, avec toutes sortes d'obstacles, de choses difficiles, et on ne tiendrait jamais, jamais le coup s'il n'y avait pas cette action de Dieu. On est persévérant, pas à cause de notre force, pas à cause de nos exploits, pas à cause de notre connaissance, si on persévère à cause de Dieu. Il est le Dieu de la persévérance. On peut lui faire confiance à aller de l'avant, qu'on soit dans la conscience de sa joie ou qu'on ne soit plus dans la conscience de sa joie, parce qu'il est fidèle. Il a promis. Il est le Dieu de la persévérance. Vous avez connu Dieu, vous irez jusqu'au bout. Il vous portera, il vous tiendra. Vous pouvez faire des détours. Il est fidèle. Il est le Dieu de la persévérance. Et on dépend de lui. Vraiment, on dépend de cette action. Il y a un passage où plusieurs fois il est dit que Jésus intercède pour nous. Ben oui, pour qu'on persévère, il y a besoin de l'intercession, du travail entre le Père et le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien, mais ce n'est pas automatique. Il est le Dieu de la persévérance et le Dieu du réconfort. Réconfort, c'est paraclésis. C'est le même mot qui est employé pour le Saint-Esprit. Il est le paraclet, il est celui qui encourage, il est celui qui console, il est celui qui est à côté. Vous voyez, et ça aussi, on ne passera pas, on ne connaîtra pas cette joie qui revient sans ce consolateur. Et Dieu est un Dieu de consolation. Il sait ce dont on a besoin. Il sait les émotions qui nous sont nécessaires. Il sait quand on pleure et il veut nous consoler. Il sait quand on est fatigué et qu'on a besoin d'être porté. Il est le consolateur. Il est à côté de nous. Et c'est pour ça qu'on peut avancer. Et c'est pour ça que même dans des périodes où le ciel semble fermé, on peut aller à côté parce qu'il nous consolera. Un, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de ce qu'on peut supporter, persévérant. Et puis... son but, son désir profond, c'est de nous faire connaître cette joie. Et il ne va pas nous laisser dans des temps d'obscurité pendant plus que c'est nécessaire. Il est le consolateur, celui qui nous fait sortir des périodes difficiles. Et on en a bien besoin souvent. Mais il est là et il est fidèle. Tu repasses le suivant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que le Dieu de l'espérance. Ça veut dire que c'est une prière. Parce qu'on a besoin de cette prière. Paul l'a fait pour les Romains. Nous, on a besoin de cette prière. Moi, je vous propose de terminer ce moment en priant cette phrase. Alors, je vous prie de fermer les yeux, mettez-vous dans une attitude de prière. Et on va prier cela. Dieu d'espérance, Dieu de persévérance, Dieu de consolation. Que ton Saint-Esprit nous remplisse de cette joie. Que ton Saint-Esprit nous mette au fond de nous-mêmes cette paix profonde. On en a besoin pour qu'on puisse... Ouais, débordé d'espérance, débordé d'ouverture, de possibilité de servir, de joie, d'apprendre, Seigneur. On en a besoin et on te le demande. Merci beaucoup, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.